Alors, on vous avait promis des champignons et des plantes, mais je vais vous parler des champignons et des arbres pour deux raisons. La première, c'est que j'avais un diaporama déjà prêt là-dessus. Et la deuxième, c'est que vous allez voir qu'en réalité, ça permet aussi de voir à quel point les champignons construisent, au passage, en construisant des plantes et notamment des arbres, comment ils construisent nos paysages. Parce que vous imaginez sans doute que c'est une forêt avec un sous-bois. Moi, je vois que des champignons là-dedans, hein. Alors, la première chose, c'est que pour le coup, si les arbres se nourrissent dans le sol, et ça, ils le partagent avec bien des plantes, c'est à cause de champignons. Il faut réaliser que déjà, ça, même en tant que représentation des plantes, c'est pas terrible parce qu'il manque toutes les racines. C'est quand même un tiers de la biomasse de la plante, hein. Et sur ces racines, figurez-vous, il y a souvent des champignons. Quand les Européens sont arrivés en Amérique du Sud ou en Afrique, avec des bateaux en bois, donc je vous rappelle, on était allé là-bas pour évangéliser. Puis on a fait du commerce après. Ils ont voulu introduire des pins. Les pins, vous voyez leur zone de distribution, ils sont dans l'hémisphère nord. Et ils ont voulu les introduire en Amérique du Sud et en Afrique parce que ça pousse très vite, ça pousse partout, ça pousse droit et c'est un bois plein de résine. C'est exactement ce qu'il fallait pour réparer des bateaux en bois qui avaient souffert des traversées. Donc ils ont planté des graines, et alors normalement ça pousse partout, donc ça aurait dû pousser, et effectivement ça a germé, et puis les quelques aiguilles formées ont jauni et sont tombées. Ça poussait pas. Quand ça survivait à 30 ans, c'était haut comme ça. Alors ils sont pas vraiment démontés, ils ont juste introduit des pins qui poussaient déjà en pot. Et en fait, sans le savoir, et donc ça a très bien repris, hein, une fois transplanté, ça a poussé comme ça voulait. Et sans le savoir, ils ont introduit, alors là on en voit beaucoup, mais en général on les voit moins, hein, ils ont introduit des champignons du sol qui, vous le voyez, s'associent aux racines et en réalité sont vitaux pour les pins. Alors chez nous, on ne s'en rend pas compte parce qu'ils sont absolument dans tous les sols, mais voilà, il se trouve que ces espèces de champignons-là n'étaient pas présents dans les zones tropicales, et pour le coup, ça a révélé que cette association est absolument nécessaire à la plante, d'ailleurs aux champignons aussi. Cette association où le champignon interagit avec la racine, c'est ce qu'on appelle une mycorhize. Alors tout, il y a plein de types de mycorhizes, hein. Il y a des plantes mycorhizées sous les tropiques aussi, mais ce type-là, avec ces champignons-là qu'on a sur nos arbres forestiers à nous, ça s'appelle une ectomycorhize parce que mycorhize, ça veut dire qu'il y a du champignon et de la racine. Ça, c'est un mélange des deux, hein. Et ecto, ça veut dire que le champignon est ecto dessus. Effectivement, il fait une chaussette autour de la racine. Voilà encore une chaussette noire. Vous avez le choix de la couleur de la chaussette, hein. Vous n'avez qu'à changer de champignon. Et c'est vraiment une chaussette puisque vous voyez, c'est tissé. On voit les fils. C'est évidemment les champignons en question. Ils viennent du sol et ils explorent le sol aussi. Ils font aussi tout un tas de filaments à l'extérieur de cette mycorhize. En voilà une belle. Alors, elle est en Chine, celle-là, comme l'indique la couleur, hein. C'est une photo faite en Chine. Oui, je sais, c'est pas politiquement correct comme blague, mais le truc, c'est que donc c'est dans le sud de la Chine, hein, près de l'université où je travaille. C'est une incroyable prolifération de racines d'un pin avec un champignon qui s'appelle le scléroderme de Sinnamary. Ça vous indique une chose, c'est que non seulement le champignon il couvre la racine, mais en plus souvent il produit des hormones, des auxines en fait, qui provoquent la prolifération de cette racine. Et ça, c'est réciproquement bénéfique aux deux partenaires parce que cette hyper-ramification des racines, complètement d'ailleurs aberrante, parce que regardez, la racine, elle croît en faisant des dichotomies, ce qui n'est vraiment pas le cas d'une racine normale, hein. Donc cette racine modifiée, qui prolifère, eh bien, ça permet d'avoir encore plus de points d'interaction, encore plus de mycorhizes, encore plus de points où les deux partenaires sont étroitement en contact. En coupe transversale, vous voyez très bien les grandes cellules de la racine, là, et puis ce feutrage de filaments de champignons qui entoure même la zone où les cellules sont en division, même la zone par laquelle la racine grandit, et qui l'entoure d'un manteau de filaments qui pénètre entre les cellules du champignon. Évidemment, ces filaments, c'est la partie végétative, la partie qui vit tout le temps dans le sol du champignon. Voilà une planche de pépinière de chez nous qui a été complètement désinfectée. Et puis là, on a remis un peu de champignons mycorhiziens. on a planté un peu partout des chênes. Là, ils ont, ces chênes, ils ont 3 ans. Là, ils ont poussé normalement. Mais là où il n'y avait pas de champignons, je dis bien où il n'y avait pas de champignons, parce que depuis, il y a sans doute des spores qui sont revenus, des filaments qui ont réussi à regagner les racines. Hein. Mais voilà, la première ou les deux premières années, il n'y avait pas grand-chose. Ben regardez, ça ne pousse pas très bien. Ça, c'est un truc dont on ne se rend pas compte, c'est que sans champignons, les arbres ne poussent pas. Alors c'est vrai que chez nous, il y a des champignons partout qui correspondent à nos arbres, donc ils poussent partout. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas dépendants de champignons. L'interaction est une interaction alimentaire trophique, c'est-à-dire que ces champignons, eh bien, ils sont nourris par la plante en sucre et en vitamines, et en échange, ils vont faire les courses dans le sol. Leurs filaments que vous avez vus sortir des racines vont chercher de l'azote, du phosphate, du potassium, de l'eau, et ramènent tout ça déjà pour eux, et en partie pour la plante. Et ces champignons, bah, c'est nos champignons forestiers, hein, pour le coup, c'est toutes les amanites, tous les bolets, toutes les russules, tous les lactaires, tous les girolles, les trompettes, tout ce qu'on trouve qu'en forêt, parce que figurez-vous que pour le champignon aussi, c'est vital. Pour le coup, c'est réciproquement vital, parce que c'est l'alimentation des deux partenaires qui en dépend de façon nécessaire. Alors la truffe a un statut tout particulier, on la trouve sous des arbres, et d'ailleurs, c'est à propos de la truffe qu'était apparu ce concept de mycorhize. Vous avez ici donc des arbres colonisés avec la zone où la végétation grandit mal, là, qui est liée à la présence des filaments de truffe dans le sol. Et en fait, l'histoire des mycorhizes commence ainsi. Alors, c'est une histoire c'est presque une histoire pour enfants. Vous savez, dans les contes pour enfants, on se place à l'époque où les animaux parlaient. Alors là, on se place à l'époque où les politiques posaient des questions aux scientifiques. Oui, c'est encore plus improbable. Hein. Eh bien, figurez-vous qu'au 19e, en Allemagne, l'Allemagne avait entrepris d'être une grande puissance, alors que c'était le recollement d'une miette de petits états minables. Donc ils voulaient devenir grands, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, ils ont investi dans la science. Bon, c'est un truc comme un autre. Hein. Et donc, le ministre allemand de Prussien, en fait, à l'époque, hein, de l'agriculture, avait demandé à Franck pourquoi les truffes poussent sous les arbres. Et Franck avait un peu fouillé l'histoire et il s'était aperçu que les filaments qui constituent la partie présente toute l'année de la truffe dans le sol s'associaient aux racines des arbres et formaient ce qu'il a appelé des mycorrhizae, des mycorhizes. Et il avait même dit que il n'y avait pas que la truffe qui faisait ça et que les arbres avaient l'air de se porter très bien alors que leurs racines étaient pleines de structures comme ça et il avait émis l'hypothèse que c'était bon pour les arbres. Et puis après, ben, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a testé. Et figurez-vous qu'alors même qu'il ignorait tout de l'histoire des pins que je vous ai raconté, il a fait l'expérience sur des pins. Il a fait pousser dans des pots de sol stérilisés des pins et il a comparé à la croissance sur des pots avec du sol non stérilisé. Sur les pots stérilisés, ça ne grandissait pas. Sur les pots non stérilisés, ça grandissait. Et il voyait très bien que dans un cas, il y avait des mycorhizes. Et dans l'autre part, il en a déduit que les arbres ne sont nourris qu'en présence de champignons. Vous sentez que 150 ans plus tard, ça n'inspire pas encore la foresterie moderne. Alors, non mais c'est pas très drôle, parce qu'en fait ça veut dire que cette fameuse époque où les politiques parlaient aux scientifiques a très très vite disparu. Alors, le champ de bataille que vous voyez là, bon, on est dans le pire du pire de la foresterie hein, monospécifique, et on est dans les Landes. C'est un champ de tir, ça, parce que là, les champignons mycorhiziens, un, il n'y a rien à bouffer, puisqu'il n'y a plus d'arbres. Deux, en plus, ils se sont fait laminer la gueule, parce qu'il y a eu du labour. Alors, qu'on ait fait ça à une époque où on n'imaginait pas ces liens-là, pourquoi pas? D'ailleurs, les arbres finissent par pousser quand même, hein, mais la coupe à blanc, c'est pas génial. On a, nous, travaillé avec l'équipe que j'avais à Montpellier à cette époque-là, au début des années 2000, dans la forêt de Puy-Chabon, qui est une forêt qui a l'habitude de coupes. Alors, j'ai mis coupe à blanc, j'exagère. Mais vous savez, c'est des coupes de recépage parce que c'est un taillis. Donc, on coupe toutes les branches, puis on va laisser des choses repousser à partir des souches. Et on avait, dans cette forêt-là, on est sur une coupe tous les 30 ans, depuis 1824. Alors, juste avant la coupe, on a deux parcelles contiguës hein, qui se touchent. Une dont on sait qu'on va la couper, l'autre dont on sait qu'on va la garder, mais enfin, la parcelle, elle ne sait pas ce qui va lui arriver. Et vous voyez que le nombre de mycorhizes par prélèvement, qui sont de taille standardisée, eh bien, il est le même dans les deux parcelles. Coupe à blanc, 5 ans plus tard, regardez le nombre de mycorhizes par prélèvement. Il n'a pas changé dans la zone non coupée, mais dans la zone coupée, il s'est effondré d'un facteur 5. C'est simple, hein, il n'y a plus de nourriture qui arrive. Il y a quelques pauvres cèpes qui repoussent, hein, quelques pauvres axes qui repoussent, mais ça, ça ne nourrit pas beaucoup de racines. Donc il y a moins de champignons, mais il y a mieux. Quand vous regardez la zone témoin, vous avez plein de groupes, comme des cortinaires, des inocibles, des tricholomes, des russules, des hymnes. Quand vous regardez la parcelle coupée, en fait, vous avez très très peu de diversité. C'est-à-dire que non seulement il y a moins de racines mycorhizées, mais il y a beaucoup moins d'espèces. Il y a des espèces qui ne survivent pas à la coupe à blanc. Alors même que la souche a survécu. Alors elles reviennent. Hein. La preuve, c'est que ça, il s'est écoulé 30 ans depuis la dernière coupe à blanc. Ça revient. Bon, il y en a peut-être qui ne reviennent pas en 30 ans, donc ceux-là, on ne les voit plus du tout. Hein. Mais il y a une certaine résilience du système. Simplement, juste quand on a coupé, ben, ça se passe mal. Or, justement, la présence d'arbres adultes et mycorhizés, ça aide les jeunes à être mycorhizés, parce qu'en fait, ça fait qu'il y a des vieux qui entretiennent des filaments de champignons dans le sol, et ces filaments de champignons peuvent se connecter aux jeunes. Et les jeunes, ils gagnent en fait des champignons prépayés, quoi, payés par la génération précédente. Regardez la quantité de pourcentage de racines mycorhizées de chêne rouge quand on les prive d'adultes ou quand on les met en présence d'adultes. À 4 mois et à 6 mois, à 16 mois, il n'y a pas photo. Hein. Donc ça, c'est la première expérience où on compare avec et sans adultes. Et puis on fait une autre expérience où on compare avec, sans adulte, et puis avec un adulte mort, au cas où ce soit juste la présence de l'adulte qui joue. Et pas simplement le fait qu'il nourrisse des champignons. Bon, quand il est mort, il n'y a pas d'effet. Donc, ça veut dire que c'est bel et bien le fait qu'il y ait des adultes vivants qui fait que ça forme plus de mycorhizes. Et alors, dans ces expériences, regardez les teneurs en phosphate et en azote, il n'y a pas photo. Hein. Quand il y a des adultes, il y a plus de phosphore et il y a plus d'azote. Alors même qu'il y a la concurrence des adultes, donc ça devrait être l'inverse. C'est-à-dire quand il y a des adultes qui pompent aussi, il devrait y avoir moins d'azote et de phosphate dans les plantules. Ah ben oui, mais elles sont mycorhizées. Donc, en dépit de la compétition avec les adultes, elles y gagnent. Ça donne envie de faire des régénérations avant les coupes, ou alors d'avoir des systèmes irréguliers où vous coupez de temps à autre, mais qu'il y a toujours des adultes autour. Voilà, ça c'est le versant champignon d'une justification d'une sylviculture douce façon pro-silva. Mais la douceur n'est pas de ce monde. Et d'ailleurs, elle est tellement pas de ce monde qu'elle n'est même pas du monde des plantes. Les plantes se font souvent buter par les champignons. Et en l'occurrence, avant de voir les massacres, je vais vous montrer que quand même les mycorhizes, et pas seulement les mycorhizes, les champignons peuvent avoir un rôle protecteur contre les adversités. Puis après, on va voir les adversités quand ça se passe mal. Alors, derrière ces plantes saines, c'est vrai pour le sous-étage, mais je vais parler avec des arbres, il y a de la protection. Et d'ailleurs, quand la racine est complètement gancée d'une chaussette de champignons, on comprend bien que le champignon, en fait, s'interpose entre le milieu extérieur et la plante. Donc, quelque part, c'est lui qui va prendre les problèmes en premier. Or, il a un intérêt très direct à ce que la racine reste en bonne santé. C'est là qu'il mange. Alors, dans ces systèmes de mycorhizes, on a des protections. Et là, je vous propose des camécyparis, pardon, qui ont été cultivés avec ou sans leurs champignons mycorhiziens. Et puis, au moment zéro, on leur balance sur les racines un phytophthora, c'est-à-dire un parasite racinaire. Du groupe des oomycètes. Alors vous voyez que la survie après l'attaque est plutôt bonne quand c'est mycorhizé et plutôt mauvaise quand c'est pas mycorhizé. En gros, il y a 5% de morts quand c'est mycorhizé, mais si c'est pas mycorhizé, il y a 95% de morts. Et là, vous voyez qu'il y a une sorte d'effet de protection. Bon, c'est pas une protection absolue, il y a quand même des morts, mais c'est qu'une protection qui fait que la probabilité de l'installation de la maladie est moins forte. Si jamais vous élevez tous vos camécyparis sans champignons mycorhiziens, puis qu'au moment où vous rajoutez la maladie, vous rajoutez à quelques-uns en plus le champignon mycorhizien, il n'y a pas de protection. En d'autres termes, ça veut dire qu'il faut que le champignon soit déjà installé. Il ne suffit pas de le mettre en même temps que la maladie. Ça ne fait rien, ça. Il faut qu'il soit installé, il faut que les mycorhizes soient en place. C'est vraiment l'installation de la protection, pardon, l'installation du champignon et la mise en place d'une mycorhize qui a un rôle protecteur. Ça, c'est les maladies qui viennent d'agents pathogènes, mais dans le sol, il y a aussi des substances qui traînent qui ne sont pas géniales. Il y a des sols très riches en aluminium, des sols très riches en calcium, et ça, les plantes n'aiment pas trop. Dans ces deux cas-là, le champignon est protecteur. Voyons l'exemple du calcium et prenons le cas de l'eucalyptus. Alors, c'est peut-être pas le meilleur exemple que vous ayez envie de prendre, mais vous savez sans doute que l'eucalyptus, on peut le planter quel que soit le sol. Il n'a pas peur du calcaire. Or, le calcaire, il y a quand même des plantes qui ne le supportent pas à cause du calcium. Le calcium, c'est un truc qui s'accroche à la membrane des cellules et qui la déforme, qui l'empêche de fonctionner bien, et du coup, il y a des fuites. Ce qui fait qu'il y a des plantes sur calcium, comme il y a des fuites dans l'enveloppe des cellules, elles ont beau pomper de la nourriture, ça ressort, ça ne marche pas. Ces plantes-là s'appellent calcifuges. Mais l'eucalyptus, lui, fait partie des plantes qu'on peut aussi bien planter sur calcaire que sur non-calcaire. Et d'ailleurs, voilà des petits plants qui ont poussé en présence de champignons mycorhiziens, sans calcaire et avec calcaire. Ça pousse pratiquement aussi bien. Quand il y a du calcium, à cause du calcaire, ça pousse un tout petit peu moins bien, mais c'est rien quoi comme différence. Et c'est ce que je vous dis, l'eucalyptus, on le plante sur tous les sols. Hélas, d'ailleurs. Bon. Bien, maintenant, vous devinez que les autres courbes, c'est sans champignons mycorhiziens, parce que ça pousse moins bien. Alors, sans champignons mycorhiziens et sans calcaire, ça pousse moins bien, mais vous voyez que ça pousse, disons, moitié moins bien que sans calcaire et avec mycorhiziens. Vous voyez, si je retire les mycorhizes en absence de calcaire, ça pousse moitié moins bien. Si je retire les mycorhizes en présence de calcaire, ça pousse 10 fois moins bien. Ouais, autant dire que ça ne pousse pas. Eh oui, l'eucalyptus, mais aussi les pins, ne supportent pas le calcaire, c'est mortel pour eux. Sauf qu'en fait, ça fait très longtemps qu'ils n'ont pas vu le calcaire, parce que chaque fois qu'ils ont des racines, les toutes petites, toutes fines sont emballées de champignons, et puis les plus grosses, y a de l'écorce. Donc il y a une protection physique. Il n'y a d'ailleurs pas qu'une protection physique. Bien sûr, il y a cette protection-là par la chaussette, mais il y a mieux. Le champignon pompe le calcium activement hors de la racine. Alors vous aimez bien, il le balance dehors et ça rentre. Non. Vous avez ici un champignon qui a poussé dans une solution très riche en calcium. Il pompe le calcium dehors et il envoie avec de l'oxalate. L'oxalate, c'est ce que vous avez dans l'oseille, dans la rhubarbe. Et on vous dit souvent, l'oseille, pas plus d'une fois par semaine. Ou la rhubarbe, les feuilles sont toxiques. En fait, c'est juste parce qu'il y a plus d'oxalate. Et l'oxalate, en fait, il se combine au calcium et ça précipite en cristaux. Et c'est ce qui se passe dans vos reins si vous mangez trop d'oxalate. Non seulement vous perdez votre calcium, mais en plus il précipite en cristaux dans les reins, ça fait un peu mal. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas en manger trop, de cette substance-là. Et en fait, le champignon inerte, il fait cristalliser le calcium, et là le calcium ne risque pas de re-rentrer dans la racine. Donc entre l'effet de protection physique, le pompage et la précipitation du calcium, eh bien voilà comment tout un tas de plantes, et notamment d'arbres, deviennent calcicoles alors que seuls, il ne supporte pas le calcium. C'est le champignon qui opère ça. Et une fois de plus, le champignon, il y a un intérêt direct. Protéger la racine, pour lui, c'est manger mieux et plus. Et donc se reproduire plus. Donc c'est sélectionné. C'est pas l'altruisme à tout craint. C'est une charité bien ordonnée qui commence par préserver les ressources alimentaires. Alors, en fait, on est dans les racines, mais prenons un peu de hauteur, n'est-ce pas ? Arrivons dans les feuilles. En réalité, même les feuilles sont colonisés par des champignons. Dans le cas des feuilles, c'est encore, j'allais dire, pire ou plus intime. Vous savez que les feuilles sont pleines de petites cavités qui débouchent à l'extérieur par des ouvertures, vous en avez une là, qu'on appelle les stomates. Pourquoi ? Parce qu'il faut que l'air rentre dans la feuille pour qu'il y ait plein de dioxyde de carbone, de CO2, pour que la photosynthèse se fasse. Donc la feuille, c'est plein de trous. D'ailleurs, une des preuves que la feuille est pleine de trous, c'est que vous ne voyez pas à travers. Alors, ça vous paraît bizarre, mais réfléchissez un instant. Si la feuille était faite d'une solution cellulaire continue, sur un demi-millimètre d'épaisseur, c'est ça que ça fait une feuille, ça devrait être transparent. Pourquoi les feuilles, et d'ailleurs pourquoi les pétales au passage, mais ça c'est un peu hors sujet aujourd'hui, pourquoi c'est pas translucide? C'est si mince. Vous saisissez que c'est aberrant ça? La feuille, épaisse comme elle est, si c'est un jus, même avec des petits morceaux dans les cellules, il y a des petits grains, bah, ça devrait être vaguement translucide. Or, si je vous regarde à travers une feuille, bah, je ne vous vois pas. C'est la même chose là, d'ailleurs. Hein. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, si vous agitez la main dans un aquarium, ou si vous vous baignez, ou si vous regardez ce que font les hélices dans l'eau, vous savez que les bulles d'air dans l'eau, ça reflète la lumière, c'est un petit peu argenté. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que là, vous avez vos cellules qui sont pleines de jus, et coincées dans les trous entre les cellules, vous avez des bulles d'air qui permettent aux cellules de respirer. Bah, ces bulles d'air, elles renvoient la lumière dans toutes les directions. Et donc, ce n'est pas transparent parce que les bulles d'air arrêtent les rayons lumineux. Donc les rayons lumineux qui viennent de quelque chose qui est derrière la feuille, bah, ils sont dispersés dans toutes les directions. Vous y êtes? Il y a des microbulles dans les feuilles qui font que eh ben, la lumière passe pas exactement comme elle passe pas à travers un aquarium dans lequel vous vous êtes en train de faire bouillonner des bulles d'air. Alors, c'est peut-être un peu difficile à comprendre, mais ça nous explique pourquoi les feuilles ne sont pas transparentes alors qu'elles devraient être transparentes. C'est qu'elles sont pleines de bulles d'air. Et donc, dans ces bulles d'air, qu'est-ce qu'on peut mettre? Surtout que c'est des bulles, ouais, mais enfin, c'est des bulles qui communiquent avec l'extérieur, hein, qui communiquent par des petites ouvertures. Regardez, tout ce qui est noir, là, c'est mes zones où il y a plein d'air. Et puis, ce qui est brun sur cette image, c'est les cellules. Vous voyez qu'il y a plein d'air entre les cellules. Cet air, ces zones communiquent avec l'extérieur parce que ça permet bah, d'avoir des gaz qui rentrent et qui sortent, de l'oxygène pour la nuit, du gaz carbonique le jour, et des champignons qui rentrent aussi et qui viennent se mettre dans ces lacunes et qui mangent un petit peu des morceaux d'emballage cellulaire, des débris cellulaires. Mais ce n'est pas des pathogènes. Dans une feuille de chez nous, vous avez une dizaine d'espèces de champignons qui vivent là. Je parle d'une feuille en bonne santé. Chez les feuilles des espèces tropicales, on est jusqu'à 100 d'espèces par feuille. Donc c'est densément peuplé, ce machin-là. Et ces champignons-là, ben, ils mangent là, donc en particulier, ils acquièrent des propriétés qui défendent les feuilles. Parce que c'est une façon de défendre leur garde-manger. Alors regardez plutôt. Je vais vous parler du cacaoyer. Bon, alors d'accord, c'est pas un arbre de chez nous. Encore que, au rythme où c'est parti, ça poussera bientôt au nord de Paris, hein. Donc, vous avez des feuilles mortes par terre, et donc, il y avait une vieille habitude, c'était de ratisser les feuilles mortes avec cette idée que les feuilles qui sont mortes, certaines sont mortes d'attaques de champignons pathogènes. Et donc, si on laisse les feuilles, les champignons, ils sont là, ils vont peut-être faire des spores ou des particules de feuilles qui vont partir dans l'air et recoloniser les feuilles saines. Donc, on ratissait toujours pour enlever les feuilles mortes, dont les feuilles malades. Ça paraît logique. Oui, mais sauf que, on s'est aperçu qu'il y avait dans les feuilles un champignon qui s'appelle le Colitotrichum des tropiques, bon, peu importe son nom, et que ce champignon avait tendance à être plus abondant dans les feuilles saines. Est-ce qu'il n'est pas protecteur? Alors, on a fait des traitements où on a privé les feuilles du champignon, qu'on appelle un champignon endophyte, parce que endophyte, il vit dans la plante. On a fait des plantes sans champignons, et puis je vais y revenir, des plantes avec champignons. Et on voit que les plantes sans champignons sont beaucoup plus malades. Ouais. Mais alors d'où ils viennent ces champignons? Bah, comme ils vivent dans les feuilles, ils tombent avec les feuilles mortes, et ce fameux Colitotrichum des tropiques, qui protège les feuilles quand il s'installe et qui fait que les feuilles sont moins protégées quand il n'est pas là, ce Colitotrichum, bah, il fait des spores dans les feuilles qui passent dans l'air et qui recolonisent. Et vous voyez que si vous élevez vos cacao dehors mais que vous enlevez la litière, vous enlevez les feuilles mortes, et ben, les feuilles sont assez malades. Si vous laissez une litière mélangée ou une pure litière de cacaoyer, les feuilles sont moins malades, simplement parce que votre Colitotrichum, ben, il est dans les feuilles mortes et regagne les feuilles vivantes. Donc, on a un champignon protecteur qui revient des feuilles mortes vers les feuilles vivantes après qu'elles soient tombées, qui recolonise les jeunes feuilles à partir de spores fabriqués dans les feuilles mortes. Et donc, si vous enlevez la litière Ou, si vous laissez la litière, mais qu'avec un fongicide, vous tuez tous les champignons de la feuille, eh ben, la feuille n'est pas protégée. Si vous laissez des litières, c'est d'autant plus protecteur que cette litière est riche en feuilles de cacaoyer, donc en colletotrichum. Et donc, maintenant, on ne ratisse plus les cacaoyères. Parce qu'on s'est rendu compte que c'est vrai qu'il y a des espèces chez lesquelles laisser les feuilles mortes, ça fait plus de maladies. C'est le cas de la vigne, par exemple. Mais chez le cacaoyer, ce n'est pas le cas. C'est le contraire, c'est les gentils qui gagnent à ce jeu-là. Et donc aujourd'hui, on laisse les cacaoyers se réinfecter avec le contenu des feuilles mortes parce qu'il y a plus de protection à attendre que de maladies. Plus de protection que de maladies. C'est joli cette histoire, parce que ça montre qu'en fait, la présence protectrice des champignons, c'est vrai sur les racines, mais c'est vrai aussi dans les feuilles. Alors maintenant, en matière de lien à l'arbre, et avant de passer aux dégâts, il y a des choses qui peuvent être vues comme des dégâts, mais qui sont des bons dégâts. C'est ce qui fait la forme de l'arbre. Depuis tout à l'heure, il y a cette image qui traîne là, et il y a un truc qui est anormal là-dessus. En même temps, il paraît très normal. C'est que j'ai des troncs avec des branches pleines de feuilles au-dessus. Donc, vous allez me dire, ben, c'est normal. Alors, oui et non. Parce que quand ces arbres ont été jeunes, ils avaient une forme de buisson. Et vous êtes d'accord qu'ils poussent par le bout. Hein. Ce n'est pas comme un parapluie, hein. Un arbre. Ça ne pousse pas par en dessous. Et donc, au moment où cet arbuste-là, il aura un tronc comme ça, même si elles n'ont pas poussé, les branches qui étaient autour, elles devraient encore être là. Après, il a été plus grand. Regardez, ça, c'en est un plus grand, là. Ouais, là. Ben, quand il sera large comme ça, toutes les branches qu'il a là devraient dépasser encore. D'ailleurs, quand vous avez un arbre qui pousse tout seul dans une prairie, il y a des branches basses, hein, et qui continuent de grandir. Alors là, on se dit, ah ben oui, ben elles meurent. Elles meurent parce qu'elles n'ont pas de lumière. Oui, mais enfin, il devrait y avoir des cadavres, non? Il devrait y avoir les restes, il devrait y avoir les branches mortes. Où sont-elles? Alors, vous allez me dire, mais Marc-André, tu te prends la tête, elles sont tombées, voilà. Attendez. Je vous emmène chez moi. Nous sommes à Belle-Île-en-Mer, dans une parcelle où certains de mes aïeux se sont crus, étant agriculteurs, assez malins pour se faire forestiers. Au moment du remembrement, on leur offre des cupressus et des pinus insignis, donc des pins californiens et des cupressus californiens. On leur offre ça pour faire des haies. Bon, manque de chance, c'est sensible au vent. Hein, donc on s'apercevra 35 ans plus tard que c'est un désastre. Mais en attendant, tout le monde, les gens qui acceptent de remembrer, ils font leur haie, et puis ils ont des plans trop. Qu'est-ce qu'il faut? Ils disent, je vais planter une forêt et je vendrai le bois. Ah oui, c'est des arbres introduits de Californie. Un peu comme les pins en zone tropicale au début de cet exposé. Regardez le désastre. Elles y sont, les branches basses. Elles sont mortes, faute de lumière ou moribondes, mais elles sont toutes là. Si je vais à cet endroit-là, je découvre qu'au sol, le bois se décompose très bien. Oui, mais en hauteur, il ne se décompose pas. Parce qu'en fait, l'attaque de ces branches-là, une attaque qui soit les tue si elles sont moribondes, soit se contente de les bouffer si elles sont déjà mortes, c'est un truc de champignons, et ces champignons sont spécifiques de chaque espèce d'arbre. Et ces espèces-là, elles sont venues en Europe en laissant chez elles les espèces qui faisaient ce boulot. Donc, quand ça tombe par terre, là le bois est humide et à peu près tous les champignons sont capables de le décomposer, mais tant que ça reste en l'air, s'il n'y a pas les champignons pour faire ça, les branches, elles restent moribondes ou mortes. Voilà une image très commune, un moignon qui est en train de se décomposer. Une très belle image aussi qui vous montre que ça va finir par faire un nettoyage très propre. En fait, on appelle ça de l'élagage. Et l'élagage naturel, c'est le produit de champignons qui sont très particuliers parce qu'il n'y a pas d'eau à cet endroit-là et qui se trouvent en plus, ne me demandez pas pourquoi, être spécifiques des espèces. Bien. Donc les espèces introduites sont mal élaguées. C'est pour ça que les forestiers sont obligés d'élaguer à la main les Douglas, par exemple. Ou les épicéas en pleine. C'est le même problème. Bien. Alors, une fois que tout est mangé, ces champignons-là ne peuvent pas s'introduire dans le tronc parce qu'ils sont sur des petites branches, ils ont l'habitude d'avoir beaucoup d'oxygène, et au cœur du tronc, n'y a pas beaucoup d'oxygène. Donc en général, quand ils ont mangé la branche qu'ils ont tuée ou qui était morte, mais qu'ils ont mangée quand même, c'est fini et ça commence à cicatriser. Vous avez un bourrelet qui se fait de la zone périphérique de l'arbre qui est en croissance. Ce bourrelet se referme et c'est complètement refermé. D'ailleurs, souvent, au cœur du bois, on a le reste de branches qui ont été élaguées, et élaguées par des champignons. Et alors, ce qui est vraiment important, là, c'est de comprendre que ça, ça est vital pour l'arbre, parce que, un, d'un point de vue mécanique, ça va éviter que le bois ne grandisse en incluant des branches mortes ou vives qui seraient autant de points de fragilité et de discontinuité de la fibre du bois. Et au passage, ça fait des belles planches, du coup. Hein, parce que quand on fait des planches, ben, on n'a pas des morceaux de branches inclus qui tombent. Et la deuxième chose, c'est que comme vous avez une écorce continue, les maladies ne rentrent plus, alors que là, elles peuvent rentrer encore. Ouais. Vous y êtes, le fait de refermer l'écorce, ça fait qu'il n'y a pas de maladies qui peuvent rentrer, alors qu'à partir d'une branche morte, il y a des maladies qui pourraient rentrer, et ça fait une fibre bien droite, continue, qui fait que votre arbre est plus résistant mécaniquement. Donc vous pouvez les appeler des parasites de faiblesse, quand ils tuent des branches fatiguées, vous pouvez les appeler des décomposeurs quand ils mangent des branches mortes, mais une chose est certaine, c'est que c'est bon pour l'arbre. Et donc, finalement, ceci est une sculpture de champignons. Ce sont les champignons qui sculptent les arbres en forêt. C'est marrant, hein, parce que, en fait, c'est un truc, on se pose jamais la question, on est tellement habitué à la forme des arbres, et puis l'absence de quelque chose, on ne se pose jamais de questions sur les absences. C'est toujours les choses qu'on observe qui nous posent des questions. On ne réalise pas que cette forme n'est pas normale et qu'elle est le produit de l'interaction avec des champignons. Alors, c'est pas fini. C'est fini quand ça se finit mal. On finit toujours par être malade. Il y a des gens qui pensent que le monde est bien fait et que la vie est belle. J'ai même un ami à moi très cher, qui paraît-il a parlé ici il n'y a pas longtemps, qui professe que la vie est belle. On a des fois des discussions devant un verre de vin où moi je dis que non, la vie n'est pas belle. On peut la trouver belle, mais il faut beaucoup de bonne volonté pour ça, parce que l'échéance de la vie, c'est de crever. Et honnêtement, ce n'était pas mon programme en venant au monde. Et ce n'est pas non plus le programme des arbres qui poussent, mais malheureusement, il leur arrive de claquer. Et c'est souvent aussi une histoire de champignons. Alors, il y a différentes façons de mourir. D'ailleurs, là, il y a un mort. Hein. Oui ? Ah non, mais la mort, elle est sur cette image. Hein. Oui, regardez. Il y a des trucs qui sont crevés, là. Bon. Alors, il y a les petites morts et les grandes morts. La petite mort, si j'ose dire, c'est ces parasites qui ne tuent pas la plante, mais l'exploitent. En l'exploitant, ils l'empêchent de se reproduire autant, ils la fragilisent et ils la rendent plus vulnérable à une année de sécheresse, un gel tardif ou à une autre maladie. Mais eux, ils ne tuent pas parce qu'ils vivent en exploitant des cellules vivantes. C'est par exemple les rouilles, comme la rouille du peuplier. Hein, c'est des champignons qui font des tas de spores orange. Et ces champignons-là, qui d'ailleurs rentrent aussi par les petites ouvertures de la feuille, comme quoi les ouvertures, c'est des ouvertures, hein, c'est bien et pas bien, quoi. Si on pouvait vivre entouré de hauts murs, hein, on n'aurait pas de problème avec les autres, mais rassurez-vous, encore une élection présidentielle et on va commencer à faire les murs. Hein. C'est vrai, on ne serait pas emmerdé par les autres. Et là, le problème, c'est qu'il y a des ouvertures et donc bah, les autres y rentrent, hein, et dans les autres, il y a des méchants. Ces champignons-là, ils rentrent effectivement par les petites ouvertures. Et des fois, les champignons résidents de la feuille n'arrivent pas à les empêcher de s'installer. Je vous l'ai dit, la protection par un champignon ou par un agent biologique, ce n'est pas du tout ou rien. On est moins souvent malade, mais bon. Alors ça se passe mal. J'en ai un autre, là, c'est l'oïdium du chêne. Et si vous connaissez le blanc du chêne, si vous préférez, si vous le frottez avec le doigt, vous verrez en dessous, la feuille, elle est verte. Ça, c'est un champignon qui fait un feutrage. C'est-à-dire que les filaments du champignon, vous voyez, ça, c'est la surface de la feuille, là. Les filaments du champignon courent à la surface et puis font des chaînettes de spores qui se détachent et qui vont regermer plus loin. Lui, il ne rentre pas. Les rouilles sont dedans. Elles ne sortent que pour faire leur spore. Lui, il reste complètement dehors. Et d'ailleurs, du coup, c'est souvent des branches basses qui sont malades. Hein, parce que les branches du haut, il fait trop sec. C'est des jeunes pousses, et c'est vraiment emmerdant pour les jeunes chênes, ou les branches du bas. Parce qu'il faut une ambiance assez humide le champignon est complètement à l'extérieur de la feuille, donc il ne faut pas qu'il sèche trop. Alors, l'histoire maintenant, c'est qu'on va aller regarder ce qui se passe dans ces cellules. Parce que là, si le champignon est en surface, comment il mange ? Quand il rentre dedans dans la feuille, on comprend comment il mange. Alors, c'est tout bête. Dans ces grandes cellules, ici, ces filaments font pousser un diverticule qui rentre dans la cellule, se ramifie en papillote, en repoussant l'enveloppe la plus interne de la cellule. C'est-à-dire que ça perce la capsule qui entoure la cellule, mais ça repousse l'enveloppe la plus interne, donc la cellule ne meurt pas. Et cette structure, qu'on appelle un suçoir, va petit à petit absorber son contenu en perméabilisant cette zone. Pas beau, hein ? Alors voilà le diagramme un peu analytique de ça. Les filaments font des ramifications qui pénètrent le cadre rigide, cellulosique en l'occurrence, qui entoure la cellule, mais il repousse la membrane et ça fait une gigantesque surface d'échange qui se nourrit du contenu de la cellule. Voilà. Donc là, il ne faut surtout pas tuer la cellule parce qu'en fait, c'est tout ce qu'elle produit qui sert à nourrir le champignon. Mais par contre, ce n'est pas une bonne nouvelle pour la plante parce qu'une partie de son contenu est en train de se vider dans le champignon. C'est assez hideux, hein, ce truc-là, comme perspective. Ça peut être pire, parce que là, l'arbre, il était affaibli. Enfin, il pousse quand même. C'est surtout les plantules pour l'oïdium, hein, pour le blanc du chêne, qui ont des problèmes avec ça. Quand vous êtes vieux, c'est bon. Les rouilles, c'est un peu plus chiant, hein, parce qu'elles sont planquées dans les feuilles, donc même les vieux arbres peuvent... Mais ils n'en meurent pas. Ils meurent souvent d'autres choses, parce qu'ils sont faibles. Mais il y a des champignons qui tuent. Et là, pour le coup, j'en ai un qui, clairement, a tué cet arbre. Pourquoi ? Parce que cet arbre qui est cassé, ben on voit le champignon qui est en train de faire ses grosses consoles là. C'est un amadouvier, hein, ça. Où il est en train de produire ses spores hein, là-dedans. Et on voit qu'il y a des consoles à la fois à la base et sur la partie qui est tombée. Alors, ceci est ce qu'on appelle un voli. Vous savez que les chablis, c'est quand l'arbre tombe complètement avec sa motte racinaire. Le voli, c'est quand il y a une partie de l'arbre qui vole et qui s'abat. Ça, c'est la chandelle. Et ça, c'est le voli au sens strict. Et on voit très bien que le champignon est sur les deux, mais surtout, on devine qu'il y a certaines de ces structures-là qui, là, ne sont pas bien orientées du tout. Regardez, là, le dessous nous regarde. Ben, c'est qu'elle a cessé de déformer quand l'arbre était encore entier et que ça, ça regardait le bas. Hein, donc souvent, sur le voli, on trouve les preuves que le champignon était installé avant quand le voli était encore en place. Et du coup, quand ça tombe... Bah, le champignon, il est plus en... la partie productrice de spores n'est plus à sa position. Alors, il faut dire que ce champignon-là tue les arbres, mais un peu par accident. Parce qu'en fait, il mange le bois de cœur. Et du coup, comme le bois est fragilisé, l'arbre casse. Mais il ne le tue pas activement. Je vais vous montrer des champignons qui tuent activement après. Donc ça, c'est le fameux amadouvier, qui est un très beau champignon. Et ça, c'est l'agent de la mort de vieillesse. Des hêtres meurent d'amadouvier. Dans la réserve intégrale de Fontainebleau, on a à l'envi ce spectacle avec les chandelles, les volis et puis les témoins que ça a commencé avant. Alors, par parenthèse, vous êtes ici à un endroit qui est mon endroit favori pour emmener des journalistes en forêt. Et je ne sais pas si vous avez vu, il y a eu un. Bon, vous ne regardez peut-être pas envoyé spécial, mais si vous avez envoyé spécial, non ? Personne ? Donc, je ne raconte pas l'histoire. Non, mais c'est pas parce que ça se passe là, mais bon, si vous ne l'avez pas vu, vous en foutez. Hein. Mais vous pouvez être à peu près sûr, quand vous voyez ma tête en train de parler de champignons à un journaliste, que ça se passe là. Parce que c'est un point de la réserve intégrale qui est accessible facilement et où on a une autorisation de filmer. Et dans la réserve intégrale de Fontainebleau, c'est un festival d'amadouviers sur des arbres qui sont énormes. Et oui, en fait, nos forestiers, ils récoltent les arbres à un âge qui n'est pas l'âge maximal de longévité, ni l'âge où ils sont les plus grands, mais l'âge où il y a encore le maximum de survivants, tout en ayant le maximum de taille de tronc. Vous y êtes ? En gros, les arbres, nous, on les coupe l'équivalent de 40 ans pour nous. Parce qu'ils pourraient vivre plus longtemps, mais il y a de plus en plus d'arbres creux, donc en termes de quantité de bois, mieux vaut des tiges, des troncs pas forcément énormes, mais en grand nombre, plutôt que quelques tiges énormes et beaucoup de morts. Mais si vous laissez les arbres vieillir, ils vivent beaucoup plus longtemps, mais en de moins en moins grand nombre, et ils crèvent tous de ça. De même, il y a des fomes qui tuent les pins, et dans une pinède spontanée, c'est Fomitopsis pinicola qui tue les arbres. Bon, c'est vraiment un classique de la mort. Et comment ça s'installe, ces trucs-là? Bah, c'est simple. Ça s'installe par des endroits où de très grosses branches sont mortes et où la cicatrisation n'est pas assez rapide, hein, la refermeture n'est pas assez rapide pour que le bois soit protégé. Or, plus un arbre est vieux, plus il y a de chances qu'une grosse branche pète, plus il y a de chances que la cicatrisation ne se fasse pas assez vite pour empêcher ce truc-là de rentrer. Vous me suivez? Le truc, c'est qu'en fait, c'est une probabilité qui augmente avec l'âge. Alors, on peut aussi être malade par les racines. Je suis désolé, hein, il y a des emmerdes à tous les bouts, quoi. Mais bon, peut-être que la vie est belle. En tout cas, pour ce chêne-là, c'est mal barré, parce qu'il y a au pied... Alors, il est vivant encore, celui-là. Hein, je l'ai photographié il y a 3 jours, ce truc-là, en pensant à vous. Il y a un champignon qu'on appelle la souchette qui a une pointe très prolongée parce qu'en fait, le mycélium est très loin, il est sur les racines. Et quand vous avez de la souchette au pied d'un arbre, c'est très mauvais parce que la souchette est en train de bouffer activement les racines en les tuant. Là, ça fait partie des pathogènes qui ne se contentent pas de manger le bois qu'il y a au cœur, mais ils tuent tout. Donc rapidement, juste à côté, il y avait un arbre qui avait sans doute eu la même maladie. Hein, et lui, il était tombé. Pourtant, il n'est pas gros. Hein. Et vous voyez que les racines sont complètement bouffées. C'est un vrai massacre. Voilà, un champignon qui nous montre que les racines peuvent être malades. Et là, pour le coup, un champignon qui peut tuer directement, pas simplement fragiliser, comme c'était le cas des amadouviers. Mais enfin, mort de fragilité ou mort dévorée, c'est mort. Dans les champignons qui peuvent manger les arbres, il y a la fameuse armillaire. Et les armillaires se propagent bien de racine en racine parce qu'elles font dans le sol des agglomérations de leurs filaments. Les filaments, ils sont microscopiques. Mais ça s'agglomère en gros cordons, qu'on appelle techniquement des rhizomorphes. Et ça ressemble à de la racine, hein, mais ce n'est pas de la racine. Parce que regardez, ça se ramifie, puis ça se recolle. Vous avez tout un tas de choses, hein, des anastomoses, comme on dit. Et ça, c'est typique du champignon, les racines. Elle se ramifie et c'est tout. C'est bien rare qu'elle se ressoude. Ça arrive, mais hyper exceptionnellement. Là, ça ne cesse de se séparer, de se ressouder. C'est un vrai réseau. Et ces trucs-là courent dans le sol à partir d'un arbre malade et colonisent un autre arbre. Ici, nous sommes dans une pinède corse qui est probablement, on l'oublie tout le temps, un des rares exemples de forêt primaire d'Europe. Via Oveja, ce n'est pas primaire, hein. C'était une réserve de chasse, on a éliminé les bisons, puis on a les remis, on a éliminé les grands prédateurs, mais on les a pas remis. Bon, on y a mis des émigrés turcs venus par la Biélorussie, donc du coup on y a mis l'armée. Voilà, puis de toute façon le gouvernement précédent, Dieu merci, éliminé de la surface de la planète par les votes récents des Polonais, le gouvernement récent avait décidé qu'il y avait trop d'arbres malades, il fallait intervenir. Donc, ils avaient commencé à couper du bois dans la forêt. Via Oveja, ce n'est pas une forêt primaire. C'est une forêt très peu secondarisée. Mais ça, c'est une forêt primaire. Parce que pour y aller, il faut soit faire de la varap, soit atterrir en hélicoptère. Donc, il n'y a pas eu beaucoup de forestiers qui sont venus chercher du bois. Et vous avez ici une très belle clairière où on voit des bois morts, des arbres pas trop en forme. Et cette clairière-là, c'est une clairière d'armillaire. À partir d'un arbre malade, elle s'est propagée d'arbre en arbre. Et d'ailleurs, de telles clairières, en vue aérienne dans le nord de l'Amérique, où vous avez effectivement des forêts primaires ou très peu anthropisées, vous avez des fois des taches de pelade comme ça, qui font jusqu'à 1 kilomètre de diamètre, et qui sont des foyers d'armillaires. En fait, c'est le même individu d'armillaire qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, qui pousse, et qui dévore en vert foncé les sapinettes et autres sapins qu'il y a là-bas. Alors, en fait, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'au-delà d'une zone qui est vraiment claire, ça se repeuple au milieu. Et en fait, voilà ce qui se passe. L'armillaire, qui fait ces ronds-là, elle mange du conifère. Quand elle a tué les conifères, il y a des essences de lumière, des bouleaux et des érables qui peuvent germer. Et qui germent, et eux, ils ne sont pas malades. Et donc, ça fait le vert clair, là. Ouais. Puis l'armillaire, il n'y a plus rien à manger, donc elle meurt. Et à l'ombre des érables et des bouleaux, regerment les conifères, qui eux sont des essences d'ombre, donc qui germent à l'ombre, et comme il n'y a plus d'air en hiver, ils se remettent à pousser. Et au milieu, la forêt revient. Alors lentement, mais elle revient. Vous avez ce cycle ? L'armillaire passe, elle tue les conifères, du coup il y a de la lumière, du coup les bouleaux, les érables peuvent germer. Ouais. Elle meurt parce qu'elle a tout mangé le bois mort. Et quand elle est bien morte, enfin les graines de conifères, bénéficiant de son absence et de l'ombre des érables et des bouleaux, regerment. Et quand ils deviennent très grands, ils tuent les érables et les bouleaux de leur ombre. Donc, il y a un certain antagonisme entre les érables et les bouleaux. Normalement, dans une forêt de conifères, il ne devrait pas y avoir d'érables et de bouleaux. Ils profitent en fait de ces clairières d'armillaires pour se développer. Et puis même, ils ne le font pas si longtemps que ça, parce qu'au bout d'une cinquantaine d'années, ils sont dépassés par les conifères. Mais ils se sont reproduits entre-temps, hein, rassurez-vous. Et donc, évidemment, vu du point de vue des conifères, ben, l'armillaire, c'est un parasite. Et maintenant, mettez-vous dans la peau d'un érable, ou pendant quelques instants, dans la peau d'un bouleau. C'est qui l'armillaire pour vous ? Ben, c'est un allié certain, sans lequel vous n'auriez aucune chance d'exister, sauf peut-être fugacement dans quelques clairières de Chablis, mais vous y êtes. Mais ouais, on n'est pas pathogène. On l'est par rapport à une espèce. Mais dans l'absolu, on n'est pas que ça. Parce que souvent, les ennemis de nos ennemis sont nos amis, et quand vous vous attaquez à une espèce, vous pouvez être certain, qu'il y en a une autre qui en profite. D'ailleurs, quand on décime tous les grands mammifères, je vous assure, les rongeurs sont ravis. Ça leur fait de la place. Alors, justement, nettoyage. Maintenant, donc, j'ai fait des morts partout, en nombre, d'accord ? Et dans cette tuerie, il faut faire quelque chose. Eh bien oui, parce que, vous avez vu, les morts, que ce soit les feuilles mortes d'ailleurs ou les troncs morts, il n'y en a pas beaucoup. Ça, c'est une hêtraie qui a, je ne sais pas, vu de pif, une bonne cinquantaine d'années, au moins. Il n'y a pas 50 ans de bois mort et 50 ans de feuilles mortes au sol. Qu'en est-il advenu ? Qu'est-il advenu, par exemple, du bois ? Alors, juste une chose à propos du bois. Ah ben, j'ai pas redressé ma diapo, je suis désolé, je vais le faire. Le bois, c'est fait de cellules mortes, hein, parce qu'à cœur du bois, bon, toutes les cellules sont mortes. Et ces cellules mortes, elles sont mortes en accumulant, voilà, elles sont mortes en accumulant une paroi énorme. Voilà. Elles sont mortes en accumulant une paroi énorme. Cette paroi, elle est faite de cellulose à l'intérieur. Vous voyez que la place de la cellule est devenue toute petite, puis elle meurt. C'est ça le bois. C'est le reste de cellules mortes qui ont un emballage qui s'est hyper développé, avec une zone faite de cellulose, et puis entre une zone où il y a un peu de cellulose, certes, mais énormément de lignine. La cellulose, je vous arrache encore votre cahier, c'est mou, hein, c'est le papier. Le bois, c'est pas mou. Si le bois est dur, c'est qu'il y a une imprégnation de lignine, et en fait, cette lignine, elle est dans la zone là, qui est la zone la plus entre les cellules et pas vers le centre. D'accord ? Alors, quand le bois tombe par terre, il pourrit. Il se décompose. Et il y a deux grandes décompositions du bois. Il y a des décompositions qui laissent quelque chose de fibreux, blanc, mou et souvent très humide. Alors, au moins, quand il pleut, ça se gave d'eau. Ben, ça, c'est de la cellulose. Ça veut dire qu'il y a des champignons comme le nématolome en touffe qui mange la lignine. Et comme il mange la lignine, ben, il mange la partie qui est entre les cellules. Du coup, les cellules, elles se décollent entre elles. Vous y êtes ? Or, dans le bois, les cellules sont allongées. Donc, comme elles se décollent entre elles, ça vous fait des paquets de cellules qui sont allongées, ben, les voilà, hein. Ouais, et qui se délitent entre eux. Donc, il ne reste que la cellulose qui est dans la partie la plus interne de la paroi. Elle aime bien l'eau, elle est blanche comme du papier. Et il n'y a plus le joint entre les cellules, ça se décolle et ça fait des paquets de cellules. Et vous voyez que les cellules étant allongées dans le bois, ça vous fait des fibres. Cette pourriture-là, c'est un champignon qui mange la lignine. Maintenant, il y en a qui mangent la lignine et qui ne font pas une pourriture blanche parce que, regardez, c'est bleu. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu du bois bleu. Il faut avoir l'œil parce que souvent, ce bois bleu, on le... Quand il est en vrac, comme ça, il est plutôt bleu-noir. Il faut couper pour voir cette belle couleur bleue. C'est une petite pésise, le Chlorosiboria, hein, qui fait ça. Et en fait, cette petite pésise, elle émet un antibiotique. La chlorosiborine, c'est pas étonnant vu son nom. La chlorosiborine, qui est un antibiotique bleu. Alors, je ne dis pas que c'est un antibiotique dont on pourrait se servir pour l'homme. Hein. Il y a beaucoup d'antibiotiques qui ne sont pas efficaces contre nos bactéries ou carrément pas bon pour notre santé. Mais c'est clairement son antibiotique et il est bleu. Et voilà. Du coup, le bois devient bleu. Et ça, ça a beaucoup servi parce que vous savez qu'en marqueterie, on n'a pas le droit d'utiliser du bois coloré par l'homme. Il faut que le bois il ait sa couleur propre. Mais, alors c'est un peu de la triche, hein. Vous avez le droit au bois coloré par le Chlorosiboria. Et si vous regardez les marqueteries classiques baroques, ben vous avez très souvent des trucs verts, et les trucs verts, ben c'est Chlorosiboria aeruginosa, qui est un agent de pourriture blanche, pourriture fibreuse, cette pourriture que je vous dis, et si on le prend assez au début, le bois est encore, se tient encore assez pour faire de la marqueterie. Si on arrive un peu tard, il ne faut même pas espérer. Alors, deuxième type de pourriture, une pourriture qui laisse des petits cubes bruns, un peu durs, et souvent peu riches en eau, qui s'hydrate mal. Enfin, il s'hydrate parce qu'il y a des trous dedans, mais il s'hydrate mal. Bah, là, il reste que la lignine. Et les champignons qui mangent la lignine, bah, il y a notamment la mérule, le champignon qui mange le bois d'œuvre. Par parenthèse, je dis souvent qu'il ne faut pas introduire... Alors, autant j'ai sur l'immigration des positions qui sont tolérantes, autant sur l'arrivée d'espèces exotiques, non. Parce que vous savez... Ben en fait, parce que ça, la mérule, qui est un désastre hein, pour le bois d'œuvre, il y a même des régions de France où maintenant, quand on vend une maison où il y a du bois, il faut un diagnostic comme quoi il n'y a pas de mérule. C'est indien. C'est fou. C'est nos amis anglo-saxons qui, quand ils ont conquis l'Inde, c'était avec des bateaux en bois. Et ils ont ramené ça, en fait. Ça a infecté leurs bateaux et c'est revenu en bateau d'Inde. C'est un champignon indien. Donc c'est pour ça que souvent, il y a des gens qui aiment bien introduire des champignons auxiliaires des plantes et tout, et qui prennent des espèces exotiques. Mais les espèces exotiques, attention, hein, ça peut devenir envahissant. Et en fait, ça, c'est une invasion biologique. C'est pas un truc de chez nous. Mais en tout cas, ça fait de la pourriture cubique. Voilà. Et quand vous avez tout mangé, bah, qu'est-ce qu'il reste? Il reste la lignine, c'est-à-dire il reste le joint intercellulaire dont je vous parlais tout à l'heure. Donc le bois garde sa cohérence. Par contre, à force de grandir, rétrécir, ben, il craque en fait selon les cernes et selon des cellules allongées perpendiculaires qu'on appelle les rayons. Et ça fait en gros des espèces de cubes. Voilà. Mais c'est des plans de faiblesse du tissu. Les tissus eux-mêmes gardent leur homogénéité, même s'ils sont fragilisés. Voilà ce deuxième type de décomposition. Et ben ça, ces deux décompositions, il n'y a que les champignons qui font ça. Que eux. Et donc, ça veut dire que dans le recyclage du bois, qui représente quand même pratiquement 90% de la masse, oui, parce qu'il y a aussi un peu de bois dans les feuilles, même si ce n'est pas en forme de tronc, dans le recyclage de la cellulose et de la lignine, qui représente 90% de la masse sèche des végétaux, c'est les champignons. Mais pas que. Alors, avant de passer au reste, un petit détour par les insectes xylophages. Parce que vous allez me dire, mais Marc-André, il y a aussi des insectes qui mangent du bois. Alors, oui, ils mangent, mais... ils ne digèrent pas. Parce qu'ils ne peuvent pas digérer la lignine. Et que tant qu'on n'a pas digéré la lignine, pour des raisons techniques, on n'arrive pas à digérer la cellulose. Donc en fait, ben, ils mangent du bois, mais regardez, ils chient du bois broyé. Ben, je vous avais dit, ils ne le digèrent pas. D'ailleurs, hop, quand le bois est bleu, ils chient du bleu. Mais vous voyez, le truc, c'est que c'est du bois broyé et à peu près le même volume. Alors, vous mangez comme ça, vous? Vous mangez des trucs que vous chiez après avoir broyé? Bon, non, c'est pas sérieux. Vous comprenez très bien ce qui se cache derrière ça. En fait, les insectes xylophages, bon, des fois, ils peuvent attaquer un peu la cellulose, oui, c'est vrai. Mais en fait, essentiellement, ils mangent, ils digèrent les champignons qui sont en train d'attaquer le bois. Eh oui, alors c'est souvent des larves de coléoptères. Voilà, alors c'est des larves assez amusantes parce que la bouche est vraiment dans l'axe du corps. Bah, c'est un peu comme des tunneliers hein, qui font des trous sous terre pour le métro. Pour le, hein. C'est, ils ont la bouche bah, en face, dans l'axe du corps. Hein. Les chenilles, par exemple, la bouche est en dessous parce qu'elles bah, sont sur la feuille et elles mangent la feuille. Moi, je pourrais être une chenille sur une feuille avec la bouche en dessous, mais eux, ils ont la bouche dans l'axe du corps. Voilà. Donc, c'est vraiment des tubes. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que certaines espèces, en fait, cette espèce de poudre-là, ce n'est pas des crottes. Ils prennent le bois, ils le mâchent, et quand ils ont bien extrait le jus de champignon, ils crachent, et puis ils font... Il y a le crachat qui repasse à l'arrière, et en fait, la poudre, c'est des crachats, ce n'est pas des crottes. Bah oui, puisqu'il n'y a rien à digérer dans ce truc-là, autant faire plus vite et pas le faire passer par le tube digestif. Ouais. Notamment, c'est le cas d'un certain nombre de cyrex, qui sont plus que des xylophages, mais qui sont des trucs qui vont directement sur les arbres vivants, mais qui, en fait, mangent le champignon. Et d'ailleurs, chez ces espèces, souvent, les femelles, après que la larve se soit transformée en adulte ailée, les femelles emportent dans des poches spéciales qui sont situées selon les espèces à différents endroits, parce que c'est apparu à différentes reprises dans l'évolution, donc à chaque fois, ce n'est pas le même endroit qui est utilisé, un peu de mycélium de champignons qu'elles mettent autour des spores, quand elles des œufs, quand elles les pondent. Pendant que l'œuf mûrit, le champignon commence à se développer et leurs enfants, leurs larves, mangeront le champignon qu'elles ont inoculé. Et souvent, ça correspond à des espèces de champignons qui n'existent plus dans la nature, mais qui sont seulement propagés par ces insectes-là. Parfois, c'est des champignons généralistes, elles prennent le tout venant. Parfois, elles cultivent un champignon donné. C'est pas beau, ça ? Eh bien, c'est pas fini. Parce que ce sympathique pic qui est en train de manger des larves, qu'est-ce qu'il mange, finalement ? Bah, du champignon. Vous y êtes ? Les champignons, ils ont aussi ce rôle, c'est qu'ils construisent des chaînes trophiques, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui mangent du champignon et des choses qui mangent des choses qui ont mangé du champignon. Donc, souvent, le rôle écologique des champignons, on dit oui, les champignons, ben, ils aident les plantes, ou ils les détruisent, ou ils décomposent la matière. Oui, mais ils sont aussi source de nourriture. Et ne me dites pas, surtout après avoir entendu l'exposé précédent, qu'on échappe à cette règle. Nous aussi, on mange du champignon. Hein. Alors, dans les trous de pique, il y a deux types de trous. Il y a les trous à petite entrée très profonds, qui sont des trous d'habitation, et les trous assez grossiers, très peu profonds, qui sont les trous de nutrition. Et quand vous voyez ce spectacle, eh bien, c'est un spectacle de champignons, en fait. Un peu comme la forme des trous. C'est pas fini. Il y a autre chose qui tombe à terre. Et qui tombe à terre avant même que les arbres ou les plantes soient mortes. C'est les feuilles. Alors les feuilles, elles sont brunes. Pourquoi elles sont brunes ? Alors il y en a qui trichent parce qu'ils ont révisé avant de venir. Effectivement, c'est les tanins, ouais. Et ça me fait penser que c'est difficile de... Donc... Effectivement, les feuilles d'arbres changent de couleur beaucoup plus que les feuilles de non-arbres. Hein. Les feuilles des arbres et des arbustes changent de couleur à l'automne. Elles deviennent rouges ou jaunes. Alors, évidemment, on peut se dire, quand elles jaunissent, c'est que la chlorophylle est démontée et recyclée dans l'arbre et que ça révèle du jaune. Mais en fait, bon, c'est pas écrit sur mon image, mais si je retire la chlorophylle, là, ce sera beaucoup moins jaune. Et puis, ça m'explique pas que les feuilles deviennent rouges. Parce que si jamais le rouge apparaissait à cause du retrait de la chlorophylle, alors la feuille, elle aurait été avant rouge et vert. Et je pense que quand vous étiez petit, vous avez fait des mélanges de couleurs de peinture. Hein. Ben, rouge et vert, ça fait kaki brun. Enfin, ça fait être pourpre. Donc, chaque fois que la feuille rougit, c'est clair, ce n'est pas du démasquage des pigments rouges par le retrait du vert. Non. En fait, ce qui se passe, c'est que là, la feuille accumule plein de molécules qu'on appelle des tanins. Ces tanins, ils peuvent être rouges, c'est des anthocyanes, comme dans le vin rouge, ou blancs, des flavonoïdes et de la quercétine, comme dans le vin blanc, d'ailleurs, qui n'est pas blanc, mais jaune. Plus des tanins incolores, d'ailleurs. Et un des rôles de ça, c'est que, en fait, ces tanins, quand les cellules meurent, ils s'attachent aux protéines, en s'oxydant. Et lors de l'oxydation, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils font des liens aux protéines et même éventuellement à tout un tas d'autres trucs qui traînent dans la cellule. Et du coup, ça change leur couleur. Ils commencent à devenir bruns. Ce qui est brun, c'est le reste de ces tanins qui s'attachent au reste de cellules et qui s'oxydent. Exactement comme quand vous coupez un fruit et que vous attendez. Ça brunit. C'est la même réaction. Mais à l'échelle d'absolument tout le contenu de la feuille, puisque là, plus rien n'entretient les cellules, ben ça fait du brun comme une pomme morte. Alors l'intérêt de ça, c'est que donc vous avez ici les cellules de la feuille que vous devinez, et il reste de la cellule qu'une petite boulette brune, avec des liens chimiques dans tous les sens, et cette petite boulette brune, elle est absolument insoluble. Et tout est là. L'intérêt d'avoir mis des tanins, c'est de faire une boulette brune qui est bien chimiquement homogène, et du coup, tous les restes de la cellule ne peuvent plus partir avec l'eau. Et pendant ce temps-là, arrive l'hiver, où il ne se passe rien. Si jamais il n'y avait pas eu un pigment brun qui s'était formé comme ça, c'est le nom qu'on donne, on appelle ça les pigments bruns, si jamais ça ne s'était pas formé, eh ben la pluie de l'hiver emmènerait toutes les substances nutritives, tous les restes de la feuille, en profondeur dans le sol et dans les rivières. Mais là, eh ben ça reste. Et puis, cette espèce de boulette brune là que vous avez, hein, dans ce qui était l'emballage de la cellule, ces boulettes brunes sont là jusqu'au printemps. Et au printemps, qu'est-ce qui se passe? L'activité reprend et un certain nombre d'organismes vont attaquer ces boulettes brunes et libérer l'azote, le phosphate, le soufre. Et qui attaque les boulettes brunes? Qui blanchit les feuilles? Ben, c'est encore des champignons. Parce que ce genre de molécules, de trucs chimiques bizarres, il n'y a qu'eux qui savent attaquer ça. En fait, ils utilisent des radicaux libres. C'est une chimie très particulière et il n'y a qu'eux qui font ça. Ils attaquent les boulettes brunes. Vous voyez ici un filament de champignon qui est en train d'attaquer une boulette brune. Celui-là, il s'en fout complètement, mais celui-là, il est vraiment actif. Et en fait, ils sont en train de libérer l'azote et le phosphate. Mais nous sommes au printemps. Et l'azote et le phosphate libérés, là, il va circuler et aller vers les racines. Ah oui, alors, vous me dites les... Ouais, en fait, ça va aller vers les champignons qui nourrissent les racines. En fait, faire ces boulettes brunes et les faire bien en rajoutant une dose de tanin avant la chute des feuilles, c'est faire de l'engrais retard. Parce que les feuilles, elles tombent sur les racines, en gros. Ouais. Mais il y a encore mieux. Alors déjà, il y a intérêt à ce que la plante soit locale. Parce que si elle n'est pas locale, ben ça ne se décompose pas. Il n'y a pas les champignons qui sont capables d'attaquer les pigments bruns des espèces introduites. Et oui, et ça veut dire que la fertilité se retrouve bloquée dans les feuilles. Là, il y a plein d'azote et de phosphate, mais il n'y a pas les champignons qui sont capables de faire ça. C'est comme pour mes branches tout à l'heure sur les cupressus ou comme pour mes pins sur les tropiques. Quand on pense qu'il suffit d'amener un arbre pour qu'il pousse, en fait, on se viande parce qu'on n'amène pas les partenaires, y compris des partenaires assez lointains comme les champignons capables de dégrader ça. Mais il y a une dernière subtilité. C'est qu'en fait, souvent, les champignons qui dégradent ça, c'est les champignons mycorhiziens. Alors, suivez-moi. Ici, je vous montre un truc qu'on voit souvent. C'est un arbre qui pousse sur une souche. Des fois, on voit aussi des petits arbres qui poussent sur un peu d'humus, enfin un peu de feuilles mortes, retenues à l'aisselle d'un arbre. Là, en fait, les racines, vous allez dire, ah ben, les racines, elles doivent descendre et dans le sol. Que nenni. D'abord, au début, elles ne peuvent pas être assez longues. Hein. Mais surtout là, je sais que c'est pas le cas parce qu'on lui a détruit la gueule. Voilà. Ben oui, il a aucun avenir. Vous comprenez? Quand la souche sera délitée, il est mort. Donc pédagogiquement, avec mes étudiants, on a tout détruit et on a établi deux choses. Petit un, que les racines n'allaient pas jusqu'au sol. Oui, il y avait un objectif pédagogique. Hein. C'est pas juste la destruction, mais c'est de la destruction de futurs morts parce que ça. Alors parfois ça survit et pour les Vosgiens d'entre vous. Ouais. Des fois, on a des arbres qui reposent sur des racines comme ça, avec un creux en dessous. Ça, c'est des arbres qui ont germé sur la souche d'un autre et qui ont survécu. Bon, là, c'est quand même plutôt rare. Et puis alors, techniquement, c'est quand même, en termes de stabilité, pas une super bonne idée. Donc, un, les racines n'allaient pas jusqu'au sol. Et deux, en fait, de racines, c'était de la mycorhize comme pas possible. En fait, les champignons mycorhiziens des arbres forestiers de chez nous. De chez nous, hein. Ceux qui n'y a pas sous les tropiques, justement. Certains d'entre eux, pas tous, sont capables d'aller détruire les pigments bruns. Ils ne s'en nourrissent pas comme source de carbone. Ils dépendent strictement de l'arbre. Ils ont besoin de sucre. Mais ils les attaquent pour libérer de l'azote et du phosphate. Et là, vous voyez que les pigments bruns, c'est notamment une façon de retenir la fertilité pendant l'hiver, mais aussi de la retenir sous une forme qui peut être directement utilisée par certains champignons mycorhiziens comme source d'azote ou de phosphate. C'est pas beau ? Parce que ça, c'est de l'appropriation des ressources. Et tout ce qu'on n'a pas pu récupérer dans la feuille avant qu'elle tombe, parce que l'essentiel aura été récupéré avant, eh ben on le récupère au sol. Donc il y a une chance au recyclage en automne et une chance à la décomposition, au grattage, la saison suivante. Bon, eh ben, je crois qu'on a pas mal avancé. Ça va, vous les voyez maintenant, les champignons ? Dans la vie des plantes, ils les aident à grandir, ils les protègent des agresseurs, ils en modèlent la forme, ils parasitent, voire tuent. Donc là, c'est plus tout à fait la vie des plantes, c'est le début d'après la vie. Et dans le après la vie, ils recyclent. Et au passage, ils nourrissent des animaux. C'est plein de champignons, mais on ne les voit pas vraiment. Et ça, c'est toute l'histoire du monde microbien. Il construit notre environnement, il le construit même visuellement, vous le voyez là. Il construit notre environnement et nous, nous le méconnaissons. Il faudrait vraiment écrire des livres pour raconter ça. Voilà. Merci de votre attention. Droit qu'à une ou deux questions. Alors, sautez sur le micro, ou peut-être sans micro, mais en vous levant, s'il vous plaît, en parlant fort face à la salle, si vous le voulez bien. Ah, le micro arrive. On va attendre le micro, parce que ceux qui sont derrière, ils ne peuvent pas entendre.
L'importance de bois mort dans une forêt ou dans une plantation. On n'enlève pas toujours le bois mort pour faire propre.
Vous avez vu que le bois mort, c'est le lieu de vie de tout un tas de champignons et puis aussi de tout un tas d'insectes qui mangent ces champignons. Donc il y a une vraie biodiversité. Aujourd'hui, l'ONF garde une chandelle. Alors parce qu'un bois mort allongé, c'est un bois mort humide. C'est intéressant, mais ce n'est pas la même écologie qu'un bois mort dressé, qu'un bois mort sec, ce n'est pas les mêmes espèces. Donc aujourd'hui, l'ONF garde une chandelle et le voli, qui est à terre, mais une chandelle par hectare. Ah non, mais c'est bon ça, techniquement, c'est parfaitement satisfaisant. Le problème, il est ailleurs. Il est que chez les champignons décomposeurs de bois, et aussi du coup chez les insectes qui les mangent, il y a une spécificité de taille. Mais vous l'avez senti, je vous ai dit, ceux qui élaguent, les petits morceaux de bois, ne sont pas ceux qui vont manger le cœur du bois. Plus c'est gros, moins il y a d'oxygène dedans, plus ce n'est pas les mêmes espèces. Donc il y a une spécificité éventuellement pour l'espèce d'arbre ou de bois, mais aussi une spécificité en fonction de la taille. Et le drame, c'est que chez nous, les chandelles, c'est des chandelles d'arbres en âge de récolte à peu près, donc d'arbres équivalents de quarantenaires chez nous. D'accord ? Je me montre, mais ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Hein, et on n'a pas de très gros bois. Moi, j'ai pleuré à Biaoveja, parce que j'ai vu des arbres avec dessus des champignons qui, pour moi, étaient des contes de Noël. C'est des noms que j'avais entendus. Voilà. Et il y en avait partout. Pourquoi ? Parce que c'est des champignons de gros bois. Or, là-bas, vous avez au sol, pas beaucoup, hein, parce qu'ils sont souvent morts avant, mais vous avez des arbres dont le tronc, quand je le regarde en coupe, il est au-dessus de ma tête. Ça met 50 à 100 ans à se décomposer. Et ça abrite une diversité qu'on n'avait bien sûr pas en laissant du bois mort d'âge moyen. Mais par contre, une chandelle à l'hectare, techniquement, en termes de génétique des populations et tout, on montre assez facilement pour toutes ces espèces qui se dispersent bien, grâce aux insectes qui font le boulot, en fait. Hein, c'est bon. Ce qui manque, c'est le gros bois. Au moins, on aura donné un satisfait site à l'ONF parce que Le bashing, ce qui se justifie par rapport à certaines choses, ça ne permet jamais de s'en tirer. Quand vous dites à quelqu'un qui fait mal son boulot, ben il n'a plus envie de le faire. Or, tout le monde fait son boulot un peu mal et un peu bien. Et ça, c'est bien fait. Au moins, c'est dit. Comme ça, on pourra parler de la coupe à blanc. Deuxième question. C'est bon, tu gères le temps.
Oui, simplement pour savoir comment réagissent les champignons au tassement du sol.
Mal. Mal, oui, mais c'est une question, je pense, faussement naïve, mais effectivement, ça se passe très mal. Ils ont besoin d'oxygène pour respirer. Et quand vous tassez le sol, ben, ça respire moins bien. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus de champignons, mais ce n'est plus les mêmes. Ça, c'est un vrai problème pour les arbres dans des parcs où les gens peuvent marcher sous les arbres. Arnaud Raphaëlian, dans un de mes bouquins, dans mes petites chroniques, il avait fait un dessin superbe de quelqu'un qui étreint l'arbre parce qu'il se ressource en sentant l'arbre. Et l'arbre, il gueule, mais putain, il m'écrase les racines, le con. Et en fait, c'est le problème. Alors, évidemment, si vous vous baladez en forêt, c'est pas un problème, mais là où il y a vraiment beaucoup de passages, ça tasse le sol, et c'est quelque chose qui défavorise beaucoup les arbres en ville. Et si vous allez à la porte de mon laboratoire, au muséum, il y a deux grands noyers d'Amérique, hein, devant le perron du laboratoire Triptogamy, et les jardiniers, ils ont mis des cordes qui ne sont pas très belles, mais parce qu'il y a une prise de conscience croissante que le problème de l'arbre en ville, c'est l'écrasement des racines. Donc ils ne veulent pas qu'il y ait des voitures ou des gens qui marchent sur cette partie du patio devant le perron. Alors, c'est aussi un problème quand on a des engins d'exploitation un peu lourds en forêt, surtout que ce qui détasse, c'est les vers de terre, et en forêt, c'est des systèmes avec des vers tout petits, les enquitrés, ou pas de vers. Donc ça détasse très mal. Effectivement, c'est un problème, le tassement. C'est pas qu'il n'y a pas de vie, c'est que c'est pas la même vie. Et donc, quand vous tassez du sol sous une forêt qui est adaptée à un sol pas tassé, vous fragilisez les arbres par le biais des champignons mycorhiziens. Alors, il y a eu des expériences à la Chanéa, en réserve en Suisse. Alors ça peut se faire qu'en Suisse, une manip comme ça. Il y avait des parcelles où les gens pouvaient rentrer et ramasser des champignons. Des parcelles où les gens ne pouvaient pas rentrer et pas ramasser des champignons, et il y avait des parcelles où les gens pouvaient ramasser des champignons sans rentrer. En fait, il y avait des espèces de caillebotis. Les gens avaient le droit de ramasser sur les côtés, mais ils n'avaient pas le droit de descendre. Bon. Alors ça, je ne vous dis pas en France. S'il y a un cep mal placé, bon. Et donc, le truc, c'est que ce qui a été établi, c'est que la récolte des parties aériennes... Alors, vous savez que la partie qu'on récolte, c'est ce qui porte les spores. Hein, ça, cette récolte, elle n'a pas changé la diversité, elle n'a pas changé la quantité de champignons récoltés, ça n'a pas d'effet. En fait, si ça a un effet, c'est sans doute à distance. Là où peuvent arriver des spores, ben, y en a moins qui arrivent. Mais sur le site, sur 30 ans, ils n'ont pas vu d'effet. Par contre, là où les gens marchent, ils ont vu un effet, même si les gens ne récoltent pas. Même si la récolte est interdite. Et donc, en fait, voilà, c'est clair que la compaction du sol, ça change la règle du jeu. Donc, ben, ce n'est pas les mêmes espèces qui survivent. Voilà.
Vous avez parlé très vite de l'anthocyane. Où est-ce que vous la classez ? Et j'ai une deuxième question. C'est est-ce que les arbres poussent en spirale ?
Désolé, hein. C'est pas moi qui posais la question. Non, mais c'est une boutade entre nous. Alors, les anthocyanes font partie des composés phénoliques. C'est-à-dire qu'ils ont des cycles aromatiques, comme le benzène, et des fonctions alcool dessus, les mêmes qu'on retrouve sur ce qu'on appelle l'alcool, des fonctions OH. Alors, bon, il y a plein de classifications qui existent. Moi, je les mets au sens large dans les tanins. En réalité, c'est vrai qu'elles ont peu de propriétés tanantes, hein. Pas toutes, d'ailleurs, certaines ont des propriétés tanantes, c'est un peu déjà délicat, mais les propriétés tanantes, vous savez, c'est la capacité de s'accrocher bien aux protéines, et par exemple, de s'accrocher aux protéines des peaux pour en faire des cuirs. Alors, en gros, ces molécules, elles sont de la même famille chimique que les flavonoïdes et un certain nombre de tanins, au sens vraiment strict de la capacité à tanner les protéines. Moi, j'appelle ça les tanins au sens large. Mais c'est une molécule, c'est une famille de molécules qui n'est pas une famille de molécules que nous sommes capables d'utiliser. Hein. Ce n'est pas comme les sucres, ou les protéines, ou les lipides. Ça, on peut l'utiliser. On sait les bidouiller pour en refaire des morceaux de nos cellules, ou au contraire, pour les bousiller complètement et en faire de l'énergie. Les tanins, on ne sait pas du tout les utiliser, nous autres. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas manger trop, parce que ce n'est pas bon pour la santé, mais en petite quantité, il y en a dans le vin, par exemple, hein, en petite quantité, ça peut être intéressant parce que c'est antioxydant. À la fois, ça bouffe de l'oxygène, ça réagit avec l'oxygène, donc ça laisse moins d'oxygène circuler et faire des bêtises. Et puis, c'est un côté anti-radicaux libres. Alors, pas tous, hein, mais les anthocyanes, par exemple, sont pas mal contre les radicaux libres. Et donc, dans notre alimentation, un peu de tanin, c'est bien. Ça dépend lesquels, hein, faut pas que ce soit des tanins très toxiques. Mais ça peut être bien et ça peut même avoir des effets anticancéreux. Mais ça dépend lesquels. Il y en a d'autres, au contraire, qui vous donnent des cancers. En fait, c'est un peu comme tous nos aliments, ils sont à la fois bons et mauvais, mais les tanins font partie des choses qu'on peut ingérer en petite quantité. On est fait, je veux dire qu'on est sélectionné pour ça. Voilà. Ces anthocyanes, vous les retrouvez à peu près chaque fois que vous avez un tissu rougeâtre, et vous pouvez vérifier que ces anthocyanes, en faisant la manip suivante, qui est très jolie, les anthocyanes, elles changent de couleur avec l'acidité. Vous prenez une fleur bleue. Oui, elles peuvent être bleues. Donc vous prenez une fleur bleue, et si c'est des anthocyanes, quand vous la mettez dans du vinaigre blanc, en une demi-heure, trois quarts d'heure, elle va devenir rose. Parce que les anthocyanes sont rose-rouge, à pH, légèrement acide. Si vous les mettez en milieu neutre, elles deviennent bleues. Le milieu neutre, c'est par exemple l'eau de Paris. L'eau de Paris, elle est à peu près à 7,5, hein, c'est une eau calcaire. Alors ce qui est génial dans l'eau de Paris, c'est de faire la manip suivante. Ces anthocyanes, vous les retrouvez dans le vin rouge en particulier. Et il y a quelque chose qui est très beau. Moi, bon, je suis un amateur de Porto, j'aime beaucoup le Porto. Et dans le Porto, en fait, l'ajout d'alcool préserve très bien les anthocyanes, elles évoluent assez peu. Et ça fait, ce que je vais raconter, c'est mieux avec un Porto qu'avec un vin rouge, mais avec un vin rouge, vous pouvez l'obtenir. Au moment où vous emmenez votre verre dans la cuisine, il reste un tout petit peu de Porto au fond, même si, enfin, vous savez, même si vous essayez de vider votre verre complètement, il en reste toujours un petit peu au fond. Et ce petit peu, il est suffisant pour que quand vous rentrez, alors il faut remplir le verre, mais sans le vider en même temps, et vous le mirez, et vous verrez, l'eau qui est dedans est bleue. C'est très beau. Mais en général, quand on rince son verre, on fait en regardant ailleurs. Hein. Donc voilà. Et si le milieu est encore plus basique, comme on dit, c'est-à-dire encore moins acide, elles peuvent être jaunes ou vertes. Si vous rajoutez quelques gouttes de déboucheur liquide, transparent de préférence, dans votre verre, en faisant attention aux doigts maintenant, hein, parce que c'est très très corrosif, eh bien vous pouvez obtenir des choses jaunes ou vertes. Et si ce n'est pas bien coloré, vous rajoutez une petite goutte de Porto pour densifier la couleur. Mais vous pouvez jouer aux chimistes, les anthocyanes ont cette caractéristique d'être aussi bleus. D'ailleurs, c'est dans leur nom en grec, cyanos, cyan, c'est bleu.
Moi, je voulais dire, on est dans une région où la plupart des travaux forestiers sont avec des abatteuses qui font 20 tonnes. C'est quelque chose qui est encouragé. Il y a des subventions publiques pour permettre aux gens de s'équiper. Est-ce qu'on a évalué l'impact d'un tel poids sur les sols et qu'est-ce que ça donne au niveau des champignons? Est-ce qu'il y a une évaluation? Est-ce que, par exemple, l'ONF qui fait travailler des gens avec des tels outils ou des porteurs qui font 40 tonnes, est-ce qu'il y a une vraie évaluation pour voir à moyen et long terme quel sera l'impact sur les forêts?
Alors, pas trop à ma connaissance, mais vous savez, l'ONF, dans l'indifférence générale de la population, il est réglementairement assujetti à être rentable. Hein ? Donc, avec l'aval finalement tacite de tout le monde, l'ONF, il fait ce qu'il peut pour produire de façon rentable. Et dans le contexte économique de la main-d'œuvre et tout un tas d'autres choses, aujourd'hui, il fait comme ça. Donc, c'est pas que je veuille à tout prix protéger l'ONF, mais à un moment, c'est bien. Et je sais bien que ce n'est pas ce que tu fais, mais je veux dire, c'est bien de pointer du doigt ce qui ne va pas, mais à un moment, c'est aussi souvent structurel comme problème. Et là, donc l'ONF, il fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. Et c'est vrai qu'il a plus envie de produire du bois que de se poser la question de savoir, et plus même que les moyens de savoir qu'est-ce que ça fait. Alors je ne sache pas qu'il y ait des évaluations directes de ça, mais les poids que tu dis, évidemment, sur les sols forestiers, c'est pas bon. Surtout qu'en plus, c'est linéaire, donc ça fait un peu comme une infrastructure linéaire, une route ou un truc comme ça. Vous coupez tout, vous compartimentez votre forêt de part et d'autre du tracé de l'endroit où passe votre bestiole, et votre bestiole, elle repasse et passe quand même plusieurs fois dans la parcelle. Donc on peut spéculer, moi je ne connais pas les travaux, on peut spéculer que c'est très 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 mauvais. Après, il y a un truc qu'il faut réaliser, parce que tout le monde a dans l'image le débardage avec des chevaux. Mais moi, j'ai été ingénieur forestier pendant 3 semaines. Après, On m'a dit qu'il faudrait peut-être que je retourne à l'université, et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai été ingénieur forestier pendant 3 semaines dans la division de Sarrebourg, où il y avait des vieux qui partaient à la retraite et qui avaient connu le débardage à cheval. Eh bien, tenez-vous bien, le taux d'invalidité au départ en retraite était de 60%. Ça veut dire qu'en fait, une machine, ça s'arrête. Un cheval qui est en train de tirer, s'il vous écrase avec le cordage contre un arbre, vous ne pouvez pas l'arrêter. Et donc, il y a une tension sur cette question entre le bien-être humain et l'exploitation de la forêt. C'est une vraie tension. Ce n'est pas une question simple. Mais clairement, 20 tonnes, ce n'est pas la réponse. D'accord ? Mais le débardage à cheval, je pense à Peter Vollebel là-dessus, hein, qui a créé une mythologie du débardage à cheval, c'est ne pas aimer l'homme, en fait. Et donc, la réponse se situe un peu intermédiaire. J'ajouterai une dernière chose, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont envie de devenir débardeurs ou bûcherons. Et c'est vrai pour l'agriculture aussi. Donc, c'est un problème assez complexe, mais assurément, 20 tonnes, ce n'est pas la réponse. D'accord ? Ce n'est pas la réponse. C'est encore une réponse technologique à un vrai problème. Et c'est simple, trop simple comme réponse.
Est-ce qu'il y a enfin un nom ? Est-ce que les scientifiques ont trouvé un nom pour les myxomycètes ? Parce que c'est un ordre.
Pour les myxomycètes ?
Oui.
Ouais, non, on s'en fait pas. On garde le vieux nom.
Ah bon ?
Oh bah oui.
Parce que ça, il était question de créer un nouvel ordre.
On parle aussi de myxozoa des fois.
Et voilà.
Oui, alors il y a des gens qui ne comprennent pas ce qu'on parle. Vous connaissez les blobs ? Bon. Bah, les blobs, à un moment, donc c'est des espèces de gros d'amibes géantes, hein, ce sont des amibes géantes, et ces amibes géantes, par moment, quand il n'y a plus rien à manger, qu'est-ce qu'elles font ? Bon, elles vivent dans le bois ou dans la terre. Alors, ils se téléphonent, mais pour simplifier l'histoire, parce qu'il ne reste plus que 35 secondes, ils montent où ils peuvent, le plus haut possible, et pouf, ils se transforment en un tas de spores. Ah ben, écoutez, je vais vous montrer ça. On peut ? Ah oui, mais j'ai tout rangé. Quel abruti ! J'étais tellement pressé de les rendre en l'antenne que... alors, j'ai essayé de vous montrer un film. Ça sporule. Et en fait, vous, ce que vous voyez, c'est un tas de spores, souvent. D'accord ?